Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Des déclarations qui vont renforcer l'image élitiste de la candidate. Aux États-Unis, Hillary Clinton a qualifié les électeurs de son rival Donald Trump de pitoyables la nuit dernière. Pour les Républicains, c'est plus qu'un faux pas, c'est une faute politique. Précision de Frédéric Carbone au début de ce journal. Aux États-Unis toujours, c'est aussi le recueillement, 15e anniversaire des attentats du 11 septembre ce dimanche. Événement devenu la matrice fondamentale pour les théories du complot. Nous nous arrêterons sur un sondage commandé par le jeune site internet Spicy, qui confirme cet attrait des Français pour le conspirationnisme. Retour aux urnes en Croatie, conséquence de l'éclatement de la coalition ultra-droitière en juin dernier. Jean-Arnaud Derrins va nous expliquer si le paysage politique a des chances d'évolution. Enfin, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, veut durcir le régime de détention des unités de prévention de la radicalisation. Son interview dans le journal du dimanche ce matin sera résumée par Martin Bartoletti. C'est peut-être la pire erreur d'Hillary Clinton selon Donald Trump. La candidate démocrate a dérapé lors d'une réunion organisée avec des donateurs à New York la nuit dernière. L'ex-secrétaire d'État a comparé les supporters de son rival à un panier de pitoyables. Elle s'est depuis excusée, mais le camp adverse s'est déjà engouffré dans la brèche, Frédéric Carbone.
Les Républicains en sont persuadés. Avec cette déclaration, Hillary Clinton a commis la même faute que leur candidat en 2012. À l'époque, Mitt Romney avait évoqué les 47% d'électeurs qui ne payaient pas d'impôts et qui étaient des causes perdues. C'était dans le même cadre, une levée de fonds avec des donateurs et l'image du candidat avait été ternie. Pour Kenneth Toole, c'est exactement ce qui va se passer pour la démocrate. Elle se moque des Américains moyens et elle est élitiste. Ce qui va se passer, c'est que les supporters de Trump vont être encore plus motivés et que même des indécis vont trouver que cela va trop loin. C'est un boomerang qui va lui revenir dessus. Ce militant républicain de Virginie-Occidentale participe tout ce week-end à un rassemblement conservateur à Washington. Il y a surtout des chrétiens évangéliques, anti-avortement, anti-mariage homosexuel. Et Benjamin s'est senti directement visé par Hillary Clinton. C'est une offense pour moi. C'est comme si elle m'attaquait personnellement, raconte cet étudiant. Il n'aurait pas voté pour Hillary Clinton, mais il avoue ne pas se sentir toujours à l'aise avec Donald Trump. Ce genre d'épisode, dit-il, l'incite à ne plus se poser de questions.
Une pause néanmoins dans la campagne ce dimanche aux États-Unis, jour du 15e anniversaire des attentats du 11 septembre. Les deux candidats à la Maison-Blanche assisteront à la cérémonie organisée sur le site de Ground Zero en hommage aux 3000 victimes. Événement fondateur du 21e siècle qui est aussi devenu une matrice fondamentale des théories du complot. Théorie qui fonctionne à plein régime encore aujourd'hui. D'après un sondage Odoxa, 66% des Français considèrent que l'on nous a caché des choses sur les attentats du 11 septembre 2001. Sondage réalisé pour le jeune site de reportage et d'enquête vidéo Spicy, qui consacre aux théories du complot une série documentaire. Jean-Bernard Schmitt est le vice-président de ce site internet.
D'abord parce que c'est un événement qui a été hyper médiatisé, qui a été filmé, qui est à la fois d'une violence incroyable par sa soudaineté et son côté en direct, mais en plus dans lequel on a toutes sortes d'images qui font appel à tout un imaginaire qui parle beaucoup aux gens, notamment aux jeunes, celui des blockbusters américains, des gros films catastrophes, etc. C'est quasiment hollywoodien dans la façon dont ça a été fait. Et donc tout ça fait qu'il y a une fascination extraordinaire du public pour le 11 septembre. Et puis, une chose fondamentale qui fait du 11 septembre l'élément qui a focalisé toutes les théories du complot pendant toutes ces années et encore aujourd'hui, c'est que c'est l'événement contemporain de l'explosion d'Internet. Cette espèce de parole libérée, sans contrepoids, et qui circule immédiatement aux quatre coins du monde. Ça fait du 11 septembre vraiment quasiment la matrice fondamentale de toutes les théories complotistes. On pourrait croire que 15 ans après, ben en fait, c'est un peu passé de mode, ou les arguments se sont émoussés. Pas du tout. D'ailleurs, on le voit que dès qu'on commence à toucher à ça, sur les réseaux sociaux, on suscite un nombre de réactions dingues. Mais soit c'est vous n'avez pas bien lu les choses, vous n'avez pas bien lu les rapports, il y a du faux à l'intérieur, des insultes, vous êtes évidemment des suppôts, des Américains, des Juifs, des sionistes, des francs-maçons, enfin voilà. Donc c'est pour ça que nous, on a voulu s'attaquer au 11 septembre cette année et montrer que 15 ans après, il fallait toujours continuer à analyser les choses, à analyser la façon dont les complotistes utilisaient cet événement.
Des propos recueillis par Benoît Bouscarel. En Croatie, les électeurs retournent aux urnes ce dimanche. Conséquence d'un scandale politico-financier, la coalition ultra-droitière formée à l'occasion des dernières législatives il y a moins d'un an a volé en éclats. La correspondance de Jean-Arnaud Derrins.
En Croatie, il n'y a pas de campagne électorale sans surenchère nationaliste, mais pour une fois, le HDZ, la grande formation conservatrice, n'est pas seul à jouer cette carte. En effet, le chef du Parti social-démocrate, Zoran Milanovic, s'est illustré par une série d'étonnantes sorties. Il a ainsi affirmé que la Serbie était dirigée par une poignée de misérables arrogants menaçant de bloquer sa candidature européenne et tout en tenant également des propos incendiaires sur la Bosnie-Herzégovine voisine. Ces arguments sont généralement utilisés par la droite nationaliste, mais celle-ci, sous la houlette d'Andrei Plenković, le nouveau chef du HDZ, essaye de faire profil lisse après les excès qui ont marqué la brève expérience du gouvernement sortant. Le HDZ s'est même débarrassé des petites formations d'extrême droite qu'il avait réunies l'an dernier dans une grande coalition patriotique. Néanmoins, dans ce contexte délétère, les sondages laissent présager qu'aucun des deux grands partis n'obtiendra la majorité absolue, tandis que des petites formations pourraient faire une percée inédite, comme le mouvement Jivizide, initialement créé pour soutenir les sans-domicile fixe, et qui professe une ligne anti-système, assez confuse, tandis que le mouvement citoyen Most, très proche de l'Église catholique, pourrait bien se retrouver, comme l'an dernier, en position de faiseur de roi.
Dans l'affaire du commando de femmes djihadistes démantelé jeudi soir, il y a eu une nouvelle arrestation ce matin à Paris. Par ailleurs, une des suspectes, Ornella G, a été mise en examen hier. La tour Eiffel constituait une cible pour la voiture piégée retrouvée dimanche dernier près de Notre-Dame à Paris. C'est ce que révèle son audition selon le journal du dimanche. Audition qui doit encore être confrontée avec celle de ses complices. Dans le JDD ce matin, le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, revient aussi sur l'agression de deux surveillants de prison la semaine dernière à Osny dans le Val-d'Oise. Les faits se sont produits dans une des 5 unités de prévention de la radicalisation créées l'an passé. Alors le ministre ne souhaite pas remettre en cause ces structures, mais il veut modifier le régime de détention, Martin Bartoletti.
Jean-Jacques Urvoas est très clair, il souhaite le durcissement des conditions de détention des prisonniers considérés comme radicaux. Cela concerne les détenus des 5 unités de prévention de la radicalisation que compte le pays. Ils sont 89 répartis dans les prisons d'Osny, où deux surveillants ont été violemment attaqués dimanche dernier, mais aussi Lille, Fresnes ou encore Fleury-Mérogis. Le garde des Sceaux entend modifier les habitudes de ces prisonniers, changement de cellules plus fréquents, multiplication des fouilles. Il sera aussi plus compliqué de cantiner, c'est-à-dire de faire des achats pour améliorer le quotidien. Les journaux ou publications venues de l'extérieur seront étroitement contrôlés. Enfin, dernier des 5 points annoncés par le ministre, ces détenus ne pourront plus sortir d'objets de leurs cellules pour éviter les caches potentielles. Certains syndicats de surveillants parlent de mesurettes et réclament toujours des structures bien à part. Ils devraient être reçus demain soir par le ministre. Jean-Jacques Urvoas assure aussi que la surveillance sera accrue en dehors de ces unités spécialisées. En tout, 1400 prisonniers français sont considérés comme radicaux.
Une réunion interministérielle se tiendra demain matin à l'Élysée autour sur l'avenir du site Alstom de Belfort. À 8 mois de l'élection présidentielle, l'annonce de sa fermeture a pris cette semaine une tournure politique. 500 salariés concernés qui devraient être d'ici 2018 transférés sur d'autres sites industriels. Après Emmanuel Macron hier, Manuel Valls a qualifié ce matin d'inacceptable la méthode employée par le groupe de matériel ferroviaire français. Tout juste qualifié pour la primaire de la droite, le député de Seine et Marne de Les Républicains, Jean-François Copé, a fait sa rentrée ce matin au Canet dans les Alpes-Maritimes. Il y a défendu sa ligne décomplexée, cherchant à se différencier de son rival Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy est dans la demi-mesure sur tous les sujets. Il n'assume pas la vraie suppression des 35 heures, pas d'augmentation des effectifs de police dans son programme. La mesure phare de Nicolas Sarkozy, vous le savez, c'est la suspension du regroupement familial. Je suis au regret de dire que c'est mentir aux Français que de le dire. Car en fait, c'est absolument interdit par toutes les conventions internationales. Il le sait, et donc c'est par avance l'assurance que cette mesure ne pourra pas se faire. Moi, je propose quelque chose qui est parfaitement constitutionnel, qui consiste à dire qu'il faut maintenant supprimer le droit du sol. Ce système, en réalité, avait du sens au XXe siècle, quand on accueillait des populations qui venaient par adhésion à la France. Aujourd'hui, beaucoup deviennent français par hasard, lorsqu'ils ne sont pas nés de parents français. Donc, je veux supprimer le droit du sol et y substituer une nationalité d'adhésion pour ceux qui ne sont pas issus de parents français. Et ça changerait beaucoup de choses dans le rapport à notre pays.
Des propos recueillis par Lisa Meillard. À La Rochelle, l'université des Frondeurs se poursuit ce dimanche avec un appel à une grande primaire de toute la gauche et des écologistes, comme un écho à l'appel à l'unité lancé par le Parti communiste hier à la fête de l'humanité. 12h40 sur France Culture, tout de suite la face cachée du globe avec vous Éric Biégala, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Parmi les faits et événements qu'on n'a pas forcément relevés cette semaine dans vos journaux, mais qui méritent pourtant de l'être, on notera que la Grande-Bretagne est devenue le second plus gros vendeur d'armes au monde, derrière les États-Unis, sur les 10 dernières années. Ce sont les statistiques du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté qui en attestent. Les 2/3 de ces armes, relève le quotidien The Independent, ont été exportées vers des pays du Moyen-Orient. En Indonésie, Jakarta veut durcir la lutte anti-drogue après les Philippines qui ont, depuis l'arrivée au pouvoir de Rodrigo Duterte cet été, intensifié leurs opérations contre trafic et usagers, causant la mort d'environ 2400 personnes, Jakarta annonce également un durcissement. Interrogé pour savoir s'il pourrait être aussi agressif que les Philippins, le chef de l'agence indonésienne chargée de réprimer le trafic a répondu, je le cite, que la vie d'un trafiquant lui semblait désormais insignifiante. La justice indonésienne a d'ores et déjà multiplié les condamnations à mort dans des dossiers liés aux narcotiques. Dans le Caucase, l'Arménie n'a plus de gouvernement depuis jeudi. Ovik Abrahamian a démissionné de son poste de Premier ministre. Il n'a pas survécu à l'accumulation de crises dans ce pays miné par la pauvreté, en état de guerre larvée et contrôlé par la Russie, Bruno Kaden.
Ovik Abrahamian n'est resté Premier ministre d'Arménie que 2 ans. Son gouvernement a fini par céder sous la pression de crises à répétition. Crise économique tout d'abord, avec 40% de la population sous le seuil de pauvreté et une économie presque totalement dépendante de celle de la Russie, elle-même mal en point. Crise diplomatique également, avec un regain de tension avec l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, cette région sous contrôle arménien depuis une guerre contre les Azéris à la chute de l'URSS. Mais crise politique surtout, avec 2 événements qui ont déstabilisé le régime. Tout d'abord, en juin 2015, ces importantes manifestations dans les rues de Yerevan, la capitale, contre l'augmentation du prix de l'électricité d'environ 20%, décidée par la société russe qui contrôle le marché de l'électricité en Arménie. Et puis surtout cet été, en juillet dernier, la prise d'otages de policiers à Yerevan par un groupe armé d'opposition. Tout cela a forcé le président Serge Sarkissian à changer de gouvernement pour tenter de calmer l'opinion. Comme nouveau Premier ministre, un favori se dégage, Karen Karapetian, membre du Parti républicain au pouvoir et ancien maire de Yerevan. Il a un grand avantage pour l'allié russe, Karen Karapetian est cadre dirigeant de Gazprom.
Au Cameroun, l'ONG Greenpeace s'inquiète d'un projet de plantation d'EVA, l'arbre à caoutchouc, dans le sud du pays et appelle les autorités camerounaises à le suspendre. Philippe Verbelen, vous êtes chargé de la question des forêts au sein de l'organisation Greenpeace. Vous avez illustré, image satellite à l'appui, les risques que porte un tel projet. Quels sont-ils exactement ?
Projet de plantation est à la bordure d'une réserve reconnue par UNESCO comme site de patrimoine mondial. Il s'agit d'une grande forêt dense humide où il y a des gorilles de plaine, des chimpanzés, des éléphants de la forêt. Et c'est juste à côté maintenant qu'il y a un grand projet de plantation d'EVA sur une surface de plus que 30 000 hectares. Ce projet représente un des projets de déforestation actuels les plus importants du pays. Et on constate non seulement des problèmes environnementaux, mais aussi d'un ordre juridique et social.
Alors justement, quelles conséquences peut avoir ce type de projet sur la population locale ?
On a constaté que l'étude d'impact est de très faible qualité. Il y a aussi une opacité quasi totale. La population locale, par exemple, n'est pas du tout au courant des engagements que la société a pris. On ne sait pas vraiment qui est derrière cette société. Donc ce sont des projets qui se manifestent dans l'opacité, sans consultation de la population locale qui dépend de la forêt pour leur survie. Ce n'est pas unique au Cameroun. On constate par exemple des grandes plantations maintenant au Gabon. Il y a aussi des projets à Congo-Brazzaville, Libéria, Sierra Leone. Donc c'est un peu un phénomène qui se manifeste un peu partout en Afrique.
Et vous, Greenpeace, quand vous demandez au gouvernement de suspendre ce type de projet, vous avez quoi comme réponse ?
Du côté gouvernemental, on n'a aucune réponse. Mais on a aussi adressé notre demande à UNESCO. Et Greenpeace avait demandé qu'ils reconnaissent qu'il y a des très grandes menaces qui pèsent sur le parc parce que cette plantation va augmenter le braconnage. C'est sûr qu'il y aura de l'exploitation illégale. Donc, on a trouvé très étrange que l'UNESCO n'a pas vraiment répondu à notre suggestion pour reconnaître ce parc comme un site de patrimoine mondial en danger.
À Chypre, pour finir, plus précisément dans la capitale, Nicosie, il faudra dorénavant reculer sa montre d'une heure en hiver lorsqu'on passera d'un côté à l'autre de l'avenue Markoudrakou, c'est-à-dire de la partie turque de la ville à la partie grecque. La Turquie et l'autoproclamée République turque de Chypre Nord ont en effet décidé de maintenir en vigueur toute l'année le régime d'heure d'été qui devait s'achever fin octobre. La partie chypriote grecque de l'île, qui commence à Nicosie Sud, passera, elle, à l'heure d'hiver dès le 1er novembre.
Merci Eric Biegala. La face cachée du globe est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo, un temps globalement ensoleillé cet après-midi. Des nuages persistants en région parisienne et en Rhône-Alpes. Les températures de 19 à Cherbourg, à 30 à Toulouse.